une meilleure mobilité. C'est vrai que la mobilité durable, c'est un des grands défis. Et depuis de nombreuses années déjà, avec cette impression parfois qu'on n'y arrive pas, parce qu'il manque peut-être quelques chaînons entre les tout à la voiture et les tout au vélo, avec certains obstacles que certains rencontrent pour pouvoir passer de la voiture au vélo. Ces véhicules intermédiaires pourraient peut-être offrir cette solution. Et c'est un petit peu ce que nous montre Jérôme Zindi dans son documentaire, Véronique.
Oui, il traverse la France à bord d'un véhicule intermédiaire. Vous l'avez dit, c'est un véhicule entre la voiture et le vélo. Et il part à la découverte des alternatives à la voiture individuelle. Premier extrait.
Ah, la bagnole. Il y en a pour qui c'est encore très ancré et il y a de quoi. Partout, ça commence dans l'enfance sous forme de jouets, ça continue avec les films, les séries, les publicités. Alors forcément, tout ça, ça façonne un imaginaire très puissant. Pour que le véhicule intermédiaire soit désirable pour le plus grand nombre, faut-il bouleverser ces imaginaires ou au contraire surfer sur les codes esthétiques de l'automobile? Pour en parler, j'ai traversé les Alpes pour vous emmener à Cluses à la rencontre d'un équipementier automobile qui prend le contre-pied de ses clients en produisant des véhicules légers, sobres, recyclables. Et ce n'est sans doute pas un hasard si ce véhicule intermédiaire s'appelle la bagnole.
Oui, c'est extrait. C'est assez parlant, hein, je trouve, parce qu'il souligne la domination de la voiture. Et par ricochet, il parle du paradoxe de la mobilité durable. Hein. D'un côté, on sait que la voiture, ça pollue, ça prend de la place, ça coûte cher. On sait aussi que collectivement, on va devoir réduire son usage. Et d'ailleurs, 70% des Belges se disent favorables à une mobilité plus durable. Sauf que la majorité des Belges, pour eux, la mobilité durable, ça reste une option de loisir et non du quotidien. D'ailleurs, dans les faits, la voiture reste omniprésente en Belgique. C'est d'ailleurs le mode de transport numéro 1. Il faut dire que la voiture ne répond pas seulement à un besoin pratique, mais elle touche quelque chose de plus profond, de culturel et d'émotionnel. Et depuis les années 50, en fait, en Europe occidentale, la voiture est peu à peu devenue bien plus qu'un moyen de transport. En fait, aujourd'hui, c'est un symbole de liberté, d'autonomie, de réussite sociale aussi. Et on grandit avec la voiture, vous l'avez entendu ici dans l'extrait. Dès qu'on est petit, on joue avec des petites voitures, on joue moins avec des petits vélos sur des pistes. Voilà, on joue avec des circuits. La voiture est héroïne de bandes dessinées, de dessins animés aussi. Elle est partout dans les films, les séries, les publicités. Il n'y a pas d'embouteillage dans les publicités de marques de voitures. D'ailleurs, pour illustrer, j'ai posé des questions ici, juste avant de rentrer en studio, à 10 personnes. De me citer 5 marques de voitures, c'est sorti tout seul. 5 marques de vélos, ça sort pas. En fait, oui, 1, 2, mais vraiment pas. Alors, je me suis rendu compte que pour les jeunes, voilà, ils sont plus au courant des marques de vélos, mais moins les plus âgés. Donc, est-ce que les mentalités, les comportements sont en train de changer? J'en sais rien. Mais les jeunes, voilà, passent moins leur permis, ça c'est clair. Par contre, la voiture reste la norme. Ça, c'est vraiment vérifié. Et donc, ce que je voulais souligner avec cet extrait, c'est que la transition ne se résume pas à des changements d'infrastructures et de techniques, mais c'est aussi, ça demande un changement de comportement, de culture et d'imaginaire collectif, en fait.
Et surtout d'imaginaire, parce que lorsque l'on se regarde ces véhicules intermédiaires, qui pourraient être ce chaînon manquant, parce que on va voir que justement, on parlait des codes de l'automobile, que certains ont du mal à quitter, cet habitacle, ce côté 4 roues, et bien on peut les retrouver dans certains de ces véhicules intermédiaires, bien que c'est une gamme très large, parce que si certains ressemblent à des petites voitures qui n'en sont pas, d'autres ressemblent très strictement à des vélos couverts, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui, d'après vous, parce qu'il n'y a pas une définition légale de ce que sont ces véhicules intermédiaires, qu'est-ce qui, d'après vous, tous les deux, définit un véhicule intermédiaire, finalement? Michael, peut-être.
Donc le véhicule intermédiaire qu'on qualifie aussi en fait en français de VELI pour ouais. Véhicule électrique léger intermédiaire. Donc ça c'est déjà quatre mots de la définition. Hein. C'est ça un véhicule intermédiaire. Et on a cette catégorie dans la norme européenne d'homologation. Donc ça va effectivement d'un vélo à assistance électrique couvert à 25 km/h avec une assistance électrique. Ouais. Donc il va encore falloir pédaler pour activer le moteur. C'est le cas du Shifty. Et on va en passant par des véhicules à trois roues, en passant par des quads, jusqu'à des Citroën Ami, des Microlino, qui sont des voitures qui vont aller jusqu'à 90 à l'heure, avec vraiment un habitacle, vraiment, c'est en fait, c'est une voiture. Il y a 50 ans, on aurait dit ce véhicule est une voiture. Mmh. Et donc la question, c'est est-ce qu'on doit encore séparer finalement les SUV de ce genre de véhicule, clairement, mais est-ce que la voiture ne devrait pas redevenir ce genre de véhicule plutôt que ce qu'on nous sert aujourd'hui, un véhicule d'une tonne 6 qui n'a absolument aucun sens.
C'est ça, Emmanuel.
Mais moi, si c'est pour donner une définition non technique,
ouais.
Je dirais que c'est le parfait intermédiaire en fait entre une voiture et un vélo, parce qu'en fait on sait aujourd'hui qu'il y a encore toute une catégorie de population qui se sentent pas à l'aise de passer au vélo, y compris le vélo électrique, pour des raisons de sécurité, pour des raisons également de météo et de sensation de se sentir bien à vélo. Et je trouve qu'en fait c'est une parfaite alternative pour ces personnes-là qui ont envie de faire quelque chose mais qui ne se sentent pas encore prêtes à passer au vélo.
Alors parfois c'est aussi des difficultés structurelles et techniques, hein, parce qu'on a tendance à penser au vélo dans les villes, mais dans les campagnes ou dans les milieux plus ruraux, certains voudraient aussi plus profiter d'un vélo que d'une voiture, mais en se disant, si je dois faire tous les jours 15 à 20 km aller et puis 15-20 km retour pour aller à mon travail, par exemple, le vélo, c'est pour moi un peu compliqué pour des raisons de santé ou bien de non-préparation ou tout simplement d'obstacles, et c'est parfois un petit peu compliqué. Et ces véhicules intermédiaires, je trouve, ils offrent cette bonne alternative pour des distances qui peuvent parfois être au-delà de 5 km que l'on pourrait imaginer dans les villes. Enfin, des 5 km, ça peut entre 5 et 10, on va dire, dans les villes. Mais ces véhicules intermédiaires, ils répondent effectivement à des normes bien particulières. Alors moi, il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est ils sont en catégorie L6 ou L7, et que en L6 ou en L7, dans un cas, il faut pas de permis, dans l'autre, il en faut un.
Oui, donc en fait, pas de permis, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut un permis cyclomoteur, il faut un permis à M. Donc
c'est ça.
Dans les deux cas. Non. Dans le cas des 45 L7, alors en tout cas.
Oui, c'est ça.
Mais donc effectivement, les L6 et les L7, c'est les Citroën Ami, Microlino, Mobilis Duo, enfin tous ces véhicules-là qui sont l'équivalent de voitures. Officiellement, c'est ce qu'on appelle des quads légers ou des quads lourds. C'est ça la différence entre le 6 et le 7, c'est léger et lourd. Ces catégories ne conviennent pas trop bien, parce que le quad, en fait, ne permet qu'un passager à l'arrière. Donc évidemment, ça tue l'intérêt du véhicule pour de nombreux ménages. Et donc c'est pour ça que nous, en fait, on est resté finalement en vélo assistance électrique couvert, parce que oui, on est limité à 25 à l'heure, mais j'ai deux places assises à l'arrière qui permettent de prendre jusqu'à deux adultes en plus d'un ou d'une pilote à l'avant. Et donc là, on répond plus finalement aux besoins des gens. Pareil, le quad va être interdit sur tous les chemins de remembrement, ce qu'on appelle les F99C ou chemins agricoles. Donc tous ces petits sentiers qui font 3,5 mètres de large et donc qui sont tout à fait adaptés à des véhicules qui font, comme le mien, 1 mètre de large, voire 1,5 mètre pour une Microlino et ce genre de véhicule. Ça a sa place sur ces petits chemins de campagne. Sauf que c'est interdit puisque c'est réservé aux tracteurs, aux cyclistes, aux piétons, aux cavaliers, mais pas aux quads. Et donc en étant dans cette catégorie L6 ou L7, on serait interdit sur ces chemins-là.
C'est à ça que je voulais en venir, c'est que finalement les catégories de classement de ces véhicules ne sont pas encore affinées que pour permettre et donner toutes les possibilités de leur développement, alors qu'elles offrent des alternatives extrêmement intéressantes en termes de mobilité et de mobilité durable encore plus, et qu'aujourd'hui, il faut peut-être adapter aussi cette législation pour faciliter le développement de ce type de véhicules. On va en reparler après une page de pub et reprendre, si vous le voulez, vos témoignages.
J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne. C'était si